CFM.
CFM.
En direct de la place nationale. 101.2.
L'esprit rock.
Refondation école ou société, journal 2011-2012 d'un instituteur à Montauban. C'est un livre paru aux éditions La Brochure très récemment et signé Jean-Pierre Frutos. Bonjour Jean-Pierre Frutos.
Bonjour.
Merci d'être là pour venir nous présenter ce livre qui, je dois vous le dire, avec juste ce titre, Refondation école ou société, m'a fait un petit peu peur quand je me suis dit, oh là là, il va falloir que je lise encore quelque chose d'assez indigeste pour faire mon travail de journaliste à CFM. Et alors j'ai d'abord été très agréablement surpris parce que c'est très facile à lire, ça se lit comme un journal intime hein, en quelque sorte, puisque c'est un, votre quotidien d'instituteur à l'école du cours Foucault. Et on y apprend beaucoup de choses. On y apprend finalement tout ce qui fait votre quotidien et ce qui peut être parfois mal compris par le grand public ou carrément pas compris du tout. Et qui fait que parfois vous pouvez être bien fatigué et qu'il faut que vous alliez chercher des ressources bien loin pour pouvoir continuer votre métier parfois. Alors juste ma première question, j'ai dit tout à l'heure en début d'émission que le mot d'instituteur vous allait plus que celui de professeur des écoles. Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là?
Oui, ouais. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vu comme ça, on pourrait penser qu'il y a, de ma part, une certaine nostalgie par rapport à un certain passé, les instituteurs de la Troisième République. Pas du tout. Notre société est en pleine mutation. Notre métier aussi. Simplement, il fallait chercher autre chose. Mais professeur des écoles, c'est quelque chose qui ne convient pas. Parce qu'un professeur des écoles, il y a l'idée d'un spécialiste. Un spécialiste en collège, en lycée, qui enseigne une ou deux matières. En ce qui nous concerne, nous sommes des généralistes. Quand je parlais de refondation de société, c'est-à-dire que nous sommes maintenant sur, dans un no man's land où nous nous cherchons. Nous cherchons notre quotidien, nous cherchons une nouvelle société, c'est-à-dire une nouvelle nation, j'en parle dans le bouquin beaucoup, une Europe, et nous sommes là en train d'essayer de faire passer des savoirs et des savoir-faire. Oui, parce que j'ai un mauvais retour là, excusez-moi, merci. On oublie trop souvent qu'un instituteur n'est pas là que pour enseigner des matières. Il est là aussi pour éduquer. Éduquer à la République, à la citoyenneté. Cette République, à mon avis, est en panne. Elle est complètement en panne. Enfin, ce n'est pas que mon avis, parce qu'il suffit justement d'écouter un petit peu ce qui se passe dans les médias, de lire la presse pour se rendre compte que nous sommes un petit peu dans le brouillard. Nous sommes à la base de tout. Nous sommes ceux qui, instituons
les instituteurs, les professeurs des écoles.
Oui, c'est un titre qui a été donné il y a quelques années. C'était pour unir le métier, pour une unicité du métier. C'était en 2004, avant. Hein. C'était à la fin des années 80.
Mais vous, quand vous vous présentez, vous vous dites je suis instituteur ou je suis professeur des écoles?
Écoutez, statutairement, je suis professeur des écoles.
D'accord.
Mais au début, je dirais que quand ce statut a été créé, je pensais qu'effectivement, nous allions vers un métier unique, c'est-à-dire un métier où nous serions capables d'enseigner de la maternelle à la troisième. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que, cela ne s'est pas fait. Donc, je trouve que le terme de professeur des écoles s'est induit un petit peu en erreur parce que il y a une confusion dans le terme. Déjà.
Alors, si vous voulez bien, Jean-Pierre Frutos, avant qu'on aille plus loin dans notre conversation, je vais lire juste un passage qui est une journée de votre vie. Puisque votre livre se découpe comme ça par journée, et puis c'est entrecoupé de réflexions sur la société en général, et puis sur votre travail en particulier. Alors, c'est le vendredi 7 octobre qui m'a particulièrement intéressé, parce que ce vendredi 7 octobre-là, donc on est en 2011, vous vous rendez à l'école comme d'habitude, Jean-Pierre Frutos. Je chamboule la disposition de ma classe par petits îlots, de quatre tables. Il me sera plus aisé de procéder ainsi par groupe de niveau. Les élèves sont ravis. Mais où est Béatrice? Où est ma fille? Ainsi, je fais connaissance avec madame sa mère. Il est 17h. Je descendais prendre l'air avant la réunion de 18h. Je n'en sais rien, madame. Peut-être joue-t-elle dans la cour? Non, j'ai déjà vérifié. Alors, elle doit être en animation. Effectivement, je trouve Béatrice dans la salle polyvalente. Puisque la mère est là, j'en profite pour parler du comportement de la fille, essentiellement de ses fréquentes disputes avec son frère. Tout de suite, la femme me dit qu'elle est très dure et manque continuellement de respect à son beau-père. La fillette s'avance, s'immisce dans la conversation, apostrophe sa mère, l'envoie balader, puis finit en larmes. Stupéfait, j'en reste bouche bée. Pas la femme, apparemment c'est une coutume familiale. Bon, je reprends la main et dis à la petite qu'il ne faut pas parler ainsi à sa mère. Pour toute réponse, j'en prends pour mon compte. Je durcis le regard et le ton, la fillette change le sien. La femme balbutie quelques excuses, me promet d'être présente à la réunion et s'éloigne, suivie de ses deux enfants. Fin de la rencontre. Le père du petit cabochard vient à ma rencontre et me présente des excuses. Sa femme étant souffrante, il ne pourra pas assister à la réunion. Nous évoquons donc son fils, dont le comportement s'est amélioré et qui participe plus positivement à la vie intellectuelle de la classe. Après avoir évoqué quelques-uns de ses hauts faits d'armes dans la cour de récréation, nous nous quittons. Le couloir du rez-de-chaussée se remplit de gosses qui galopent dans tous les sens. Je récupère deux de mes élèves à l'étage. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien à y faire à cette heure. Je m'enferme dans ma classe. J'ai besoin de calme, de concentration, de silence. 18h. Une dizaine de parents, à peine. C'est très décevant. Mais la réunion se déroule très bien. J'expose le travail accompli et l'avancée de mes progressions. Deux femmes prennent la parole assez aisément et me bombardent de questions. J'en suis ravi. En ce qui concerne l'aide aux devoirs à l'adresse des parents, vu la foule, nous verrons plus tard. Tout en fin de réunion, deux hommes d'origine maghrébine viennent me remercier. Ça fait chaud au cœur. Un autre papa attend pour me parler. L'homme me reproche l'importance et la répétitivité des devoirs que je donne aux enfants. En outre, celui-ci évoque le manque de coordination entre enseignants. Et oui, c'est un fait. Le temps et l'expérience nous éloignent des résolutions de départ. En d'autres termes, les exigences des familles, des enfants, tendent à la longue à nous isoler dans nos classes. Je réponds à mon contradicteur que je donne ces devoirs à titre indicatif et à la demande expresse des parents qui n'ont que cet outil pour faire travailler leurs gosses à la maison. Il n'y aura de ma part aucune représaille pour les devoirs non faits. L'homme me quitte rassuré. Ma réponse, me dit-il, le satisfait. Merci monsieur, et de rien. Une maman voilée me demande de lui exposer ma façon de résoudre les soustractions. C'est demandé tellement gentiment que je m'exécute volontiers. Il est 19h40. C'est ma 13e heure de présence à l'école. Et pendant ce temps-là, un patron de police mis en garde à vue. Et pendant ce temps-là, le premier tour des primaires à gauche et les banques qui doivent être recapitalisées. Voilà, c'était un passage un petit peu long, mais que je souhaitais lire parce qu'il résume assez bien l'univers de votre bouquin. C'est-à-dire qu'il y a tout là dans ce passage. Il y a une journée de travail bien remplie avec du plaisir parfois que vous arrivez à prendre dans votre travail.
Souvent.
Et puis des déceptions, enfin tout ça, quoi, tout ce qui fait votre quotidien.
Ce qui se passe dans le quotidien, bon, je le dis, c'est que les enfants ne sont plus les mêmes. Enfin, c'est-à-dire, les enfants ne sont plus les mêmes. Les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Nous devons répondre de plus en plus dans l'urgence et dans l'immédiateté. Les groupes sont très difficiles à faire. Nous vivons une individualisation très forte, à la fois des enfants, mais également des parents. Donc, quand je parlais de... Si je disais justement que je tenais au terme d'instituteur, celui qui institue, c'est celui qui donne des règles. Enfin, des règles, qui donne une vision, qui donne de la cohérence à une société.
Et vous n'avez pas le temps de le faire. C'est ce qui vous manque. Hein. La plupart du temps, vous dites, on n'a pas le temps. Il y a d'autres passages où vous racontez que toutes les 5 minutes, quand vous démarrez votre cours le matin, il y a quelqu'un qui arrive en retard, il y a quelqu'un qui vient taper à votre porte en permanence.
C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place est sans cesse dérangé par des choses du quotidien. Et nous devons répondre en permanence à l'urgence, à l'immédiateté. Oui.
En tout cas, c'est très intéressant de rentrer dans votre univers au travers de ce livre que vous venez d'écrire. Refondation École ou Société, journal 2011-2012 d'un instituteur à Montauban. C'est aux éditions La Brochure, un petit peu de musique et on revient dans un instant en conversation avec Jean-Pierre Frutos, professeur des écoles à l'école du cours Foucault. C'est comment ça s'appelle ?
Léo Ferré.
Je l'ai toujours appelé le cours Foucault, mais c'est l'école Léo Ferré.
CFM. En direct de la place nationale. 101.2.
L'esprit rock. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobat. Shadow boxing the other half. Learning how to react. I've spent most
Voilà, Kelly Clarkson sur CFM Radio, dans le magazine À qui le tour. On est en compagnie de Jean-Pierre Frutos, qui vient nous présenter son livre Journal 2011-2012 d'un instituteur à Montauban. Et puis cet autre titre, hein, Refondation, école ou société, point d'interrogation. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jean-Pierre Frutos, de vous lancer dans cette aventure de l'écriture ?
De l'écriture, il y a déjà quelques années. Hein. Autrefois, j'écrivais beaucoup pour le théâtre.
Ouais.
Des chansons aussi, pour la chanson. En ce qui concerne ce livre-là, c'est tout simplement un désir d'arrêter le temps et de prendre le temps de réfléchir face à l'immédiateté, face à l'urgence, face à ce temps séquentiel extrêmement rapide que nous vivons. Une fois de plus, mon métier est fait de temps long. Nous avons besoin de lancer de grandes choses et de lancer les choses sur le temps. Or, comme je le raconte dans le livre, nous sommes en permanence dérangés dans nos plans. Donc si j'ai écrit ce livre-là, ça a été une manière pour moi aussi de faire le point. Finalement, pourquoi j'ai choisi ce métier il y a fort longtemps, pourquoi j'avais envie de le faire, et est-ce que le métier que j'avais choisi est-il encore d'actualité? Or, je prétends que oui, il est d'autant plus d'actualité. Le problème, c'est que, ben, ma foi, rien n'est réellement mis en place pour que nous puissions l'exécuter dans de très bonnes conditions. Quand je dis rien, je parle évidemment des pouvoirs publics, je parle évidemment, mais de tout le monde. Je parle des pouvoirs publics, je parle des parents et je parle de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre société. Nous allons de plus en plus vite et nous ne prenons plus le temps. Or, lorsque l'on travaille dans des enfants, la moindre des choses, c'est de prendre le temps. Et l'école que j'ai connue, enfin, là, c'est peut-être ma petite pointe de nostalgie, dans les années 60, c'était justement celle qui prenait le temps. Or, maintenant, ça va trop vite. On apprend trop de choses, trop rapidement. La sédimentation intellectuelle ne se fait plus chez les enfants. On a du mal à apprendre. Il y a en outre, vous savez, un phénomène de crise européenne qui fait que nous avons de plus en plus de gens qui viennent de l'immigration. Et l'on vient nous dire, et attention, non pas que je sois contre l'immigration, je suis moi-même un enfant de l'immigration. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'on ne s'étonne pas ensuite que dans un monde pareil, il y ait de plus en plus de personnes qui, arrivent à un certain âge, ne savent ni lire ni écrire. On ne prend plus le temps.
Vous êtes justement, vous avez des CE1, CM1. Hein.
Non, CE2, CM1.
CE2, CM1, c'est justement là un âge très très important au niveau de la lecture et de l'écriture, non ?
Mais même, cela ne veut plus vraiment... Enfin, nous fonctionnons par cycle dans notre école, mais cela ne veut pas vraiment dire quelque chose parce que l'an passé, par exemple, j'avais deux élèves qui étaient en CE2, mais qui étaient en alphabète. Là, je viens de recevoir des enfants qui ne parlent pas un mot de français. Donc, je fais, en l'occurrence,
alors,
du CP.
Comment vous faites
comme je peux.
C'est parce que vous avez 27 élèves, je crois, dans ce cycle.
Mais, voilà. L'année passée, 28.
Et donc, comment vous faites pour finalement pouvoir prendre à part deux élèves qui, eux, vont devoir apprendre différemment des autres?
Mais ça, c'est une des grandes mystifications de notre époque. On parle de personnalisation, d'individualisation du travail, et parce qu'on le dit, on pense que cela est possible. Très difficilement. Parce que justement, trop de personnalisation de l'instruction fait que les gamins deviennent de plus en plus impatients. Vous prenez 2 minutes, 1 minute, voire 30 secondes pour vous occuper d'un gamin, les 27 autres en profitent,
c'est le chahut général. Ça a toujours été. Même moi, quand j'étais à l'école, on aimait bien chahuter dans le dos du professeur.
Je parle beaucoup du bruit dans ce roman, dans ce journal. Lapsus. Disons que le bruit, c'est devenu maintenant un phénomène tout à fait banal et quotidien. Et ne pas travailler dans le silence...
Oui, d'ailleurs, vous avez une réflexion là-dessus qui est de faire travailler vos élèves sur l'endroit le plus propice à la réflexion et au silence dans l'école, à la maison, dans son environnement, comme ça.
Ben, le silence... Ouais. Moi, je viens du théâtre. Et le premier son, c'était le silence. Le premier mouvement, c'était justement de ne pas bouger. Je viens de cette éducation-là. Et j'avoue que ça a été, en ce qui concerne mon métier, ça a été un excellent entraînement, quoi. Parce que si on n'a pas la capacité de se taire, on n'a pas la capacité d'écouter.
Vous utilisez le théâtre
énormément.
Médian, hein, pour
dans ma manière de fonctionner, ouais. Et avec les gosses, oui. Je fais beaucoup de théâtre avec eux, oui. Beaucoup de travail sur l'oralité, sur l'expression corporelle, oui, énormément.
Ça vous permet, selon vous, de mieux faire comprendre, appréhender aux élèves, justement, l'écriture, peut-être, la lecture
Au départ, je dirais... non, ça, c'est dans un deuxième temps. Je n'ai pas encore cette ambition-là. La première ambition que j'ai en leur faisant faire ce genre de travail, d'exercice, c'est tout simplement d'apprendre à vivre ensemble et de se supporter. Parce que je le vois au quotidien, tous les jours, les gosses ont de plus en plus de mal à se supporter les uns les autres.
Il y a une autre partie de votre livre, Jean-Pierre Frutos, moi qui m'a intéressé, qui est tout au long, en filigrane, puisque c'est vraiment un journal au quotidien. C'est la relation que vous avez avec les parents. Et certains parents qui font confiance encore au professeur ou à l'instituteur, et puis d'autres qui le prennent presque comme un ennemi, quelque part.
C'est très simple. L'école républicaine était là pour former, je dirais, pour créer encore de la classe moyenne. Nous sommes en crise économique. Les classes moyennes sont attaquées en ce moment. L'école ne répond plus à ce besoin-là. Déjà, d'une part, donc, il y a, de la part de certains parents, déjà une certaine méfiance en disant, moi, mais ma foi, qui bosse ou qui bosse pas, de toute manière, il n'y a pas de débouché à l'arrivée. Ça ne sert pas grand-chose. La deuxième chose, s'il y a des parents qui, effectivement, nous font encore confiance, ce sont des parents qui fonctionnent sur cette chose-là, qui se disent, si mon gosse travaille et travaille bien, peut-être il y a du chômage, peut-être c'est pas facile, mais au moins aura-t-il davantage de chances de se faire une place, évidemment. Là aussi, je voulais combattre une idée reçue. Je dirais que les personnes qui sont les plus à l'écoute et les plus attentives à mon travail, ce sont les personnes qui viennent de l'immigration maghrébine. Ce sont du Maroc. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent de ce pays-là dans notre école. Et je dois avouer que les rapports avec les parents sont excellents. Et les meilleurs élèves viennent de là, d'ailleurs.
Bon, comme quoi, c'est aussi les parents qui peuvent... les premiers... contribuer à l'éducation de leurs enfants et à aider à faire les devoirs et à élever culturellement
Il faut qu'il y ait confiance entre parents et enseignants, déjà d'une part. D'autre part, je parle beaucoup d'aide aux devoirs, mais d'aide aux devoirs aux parents, parce qu'il y a énormément de personnes, comme c'était le cas de mes parents à moi, analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire, qui viennent à l'école. Bon, nous donnons des rendez-vous sur l'année et je fais ce travail-là nécessaire pour qu'ils puissent suivre ensuite leur gosse. Et d'ailleurs, je dois dire que depuis que j'ai mis en pratique l'année passée ces ateliers, les relations sont encore meilleures.
Refondation École ou Société, journal 2011-2012 d'un instituteur à Montauban, Jean-Pierre Frutos, aux éditions La Brochure. Merci d'être venu nous en parler ici. Ah, un mot à Jonathan, c'est ça? Jonathan. Mais il est bon comme maître?
Oui, oui.
Comment on l'appelle en cours? Maître?
Oui.
Enfin, on dit comme ça, maître? C'est vrai?
Oui.
Il est bon?
Oui, oui.
T'as déjà collé? Ah non, mais on colle pas à cet âge-là, ça va. Il donne beaucoup de devoirs le soir?
Non, ça va.
Ah. Allez, merci d'être venu en parler. Merci Jean-Pierre Frutos. À la prochaine. La suite après ça.